Testament.
Très bien. Eh bien, merci de l'avoir regardé pour nous, de le regarder avec nous. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que même le livre le plus court a à nous apprendre. Merci pour les prédicateurs que tu nous donnes et merci pour parce que tu étais avec Philippe cette semaine. J'aimerais te prier que tu sois encore avec lui dans ce moment et que tu sois avec nous alors que nous recevons ce que vous avez travaillé ensemble. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.
Amen. Cette prédication a été annoncée depuis 2 semaines déjà. Ceux qui étaient là il y a 2 semaines le savent, puisque j'avais précisé que nous terminions tout ce parcours des épîtres de Jean, commencé il y a bien longtemps avec la première épître, qui a été interrompue quelques mois, et nous avons poursuivi il y a 2 semaines avec la deuxième épître, et nous abordons ici la troisième. Alors, tout de même un rappel rapide de ce que nous avons vu la dernière fois, parce que ce n'est pas sans lien avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce que nous enseignait la deuxième épître, c'est l'amour de la vérité. Marcher dans la vérité, et pas seulement être dans la vérité, une attitude dynamique, donc la vérité en marche. La vérité dans l'amour aussi. J'avais cité le théologien John Stott, « Notre amour s'affaiblit s'il n'est pas fortifié par la vérité. La vérité se durcit si elle n'est pas adoucie par l'amour. » Réciprocité, donc, de la vérité et de l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la duplicité ou le mensonge, tout comme dans la vérité, il n'y a pas de place pour l'agressivité et la violence. Et puis, nous avons entendu, réentendu, parce que c'était déjà bien développé dans la première épître, demeurer dans l'enseignement de Christ. Apprendre à discerner ce qui est conforme à l'enseignement de Christ. Et ceci dans un contexte d'émergence de fausses doctrines et de la circulation de faux docteurs qui ne reconnaissaient pas, je cite Jean, que Jésus est le Messie venu en homme. Alors je vous propose d'aborder cette lecture et de la découper en 3 parties. Et la première partie nous mènera donc jusqu'au verset 8. De la part de l'ancien, au bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois un homme en bonne santé, à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont, du reste, rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu ferais bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin de travailler avec eux pour la vérité. Ceci. Voilà, alors nous retrouvons au début de ce passage le titre par lequel Jean s'était présenté dans sa lettre précédente, l'Ancien. Et donc je cite ici Florent Varac, je note qu'il n'emploie pas le titre d'apôtre. Il influence par sa réputation et son vécu et non par sa position ou son autorité. Il est le dernier apôtre vivant, mais il parle comme l'ancien, l'homme du recul, de l'expérience et de la maturité, pas l'homme du contrôle ou de la puissance. Et donc Jean, l'ancien, s'adresse à un certain Gaius, un croyant. Et en ceci, cette lettre diffère de la précédente qui s'adressait à une église, une église personnifiée, comme nous l'avions vu. qui est personnifié sous le nom de Kyria ou la Dame, hein, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, mais qui en fait était une lettre à une église. Alors il serait hasardeux de chercher à rapprocher ce Gaius d'autres Gaius qu'on rencontre dans le Nouveau Testament, parce que Gaius était l'un des noms les plus répandus de tout l'Empire romain. Peut-être qu'il s'agit de l'un d'eux, peut-être pas, et en tout cas ce n'est pas très important pour nous. Les termes dans lesquels Jean s'adresse à lui font penser qu'il était très probablement le ou un des responsables d'une église locale. Et probablement pas très loin de là où se tenait Jean lui-même, et on pense à Éphèse. Et nous retrouvons dès le premier verset l'association de l'amour dans la vérité. Dans ces premières lignes, Jean reconnaît en Gaius d'immenses qualités de disciple, ainsi qu'en ont témoigné des frères qui l'ont vu à l'œuvre. Qui sont ces frères? S'agit-il de personnes connues de Jean qui ont rendu visite à son église? S'agit-il au contraire de membres de l'église de Gaius qui sont arrivés auprès de Jean? On n'en saura pas plus aujourd'hui sur ses frères. Mais qui qu'ils soient, ils sont aux yeux de l'ancien Jean assez crédibles dans l'excellent témoignage qu'ils rendent de Gaius. Je redispose mes choses, je ne suis pas très bien. Voilà. On voit à cette occasion que les églises fonctionnaient en réseau, c'est-à-dire que des échanges avaient lieu et qu'elles ne restaient pas isolées les unes des autres, puisqu'on voit qu'on a des échanges de frères d'une église sur l'autre, qu'elles échangeaient apparemment des nouvelles et peut-être aussi probablement se soutenaient. Jean souhaite à Gaius de prospérer à tout point de vue. Alors, loin du modèle promu par la théologie de la prospérité, il s'agit ici littéralement de bien avancer, réussir en tout. Aujourd'hui, on dirait que tout aille bien pour toi, tout simplement. Et c'est d'ailleurs la traduction que propose la Bible en français courant, je cite, « Je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. » On croirait lire l'introduction d'une carte de vœux. L'objet de cette lettre vient après, et avec lui des questions plus délicates, et c'est ce que nous verrons plus loin. Au verset 4, nous retrouvons presque mot pour mot une parole de l'épître précédente. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » L'expression paternelle de Jean nous montre où est son idéal, où se situe son idéal d'homme de grand âge qui va bientôt passer la main. Légué à ce monde des disciples, porteur d'une vérité à l'œuvre dans leur vie, d'une vérité en marche. Et la vérité, lui, il l'a annoncée, il l'a défendue toute sa vie, depuis le jour où il est devenu disciple de Jésus et il est devenu très jeune. Mais aujourd'hui, ce qui fait sa joie, c'est de voir la génération suivante s'emparer de la vérité et de la mettre en œuvre fidèlement. La vérité en marche. À notre inquiétude, bien justifiée à certains égards, au sujet du monde que nous allons laisser à nos enfants, Jean répond ici clairement qu'il se préoccupe avant tout de quels enfants il va laisser à notre monde. Un des aspects, semble-t-il, important du ministère de Gaius, c'est l'accueil fait aux prédicateurs itinérants. Nous l'avons vu la dernière fois, c'était déjà un sujet qui apparaissait dans la deuxième épître. Le réseau routier de l'Empire romain a grandement facilité et sécurisé les déplacements, les voyages, et ouvert, c'est le cas de le dire, d'un boulevard aux prédicateurs de l'Évangile. Et c'est probablement de ces prédicateurs qu'il est question au verset 5, qu'ils soient connu de Gaius ou inconnu de lui, étranger. Hein, voilà. C'est ainsi que ce terme apparaît, qui se rapporte à des frères, des prédicateurs, soit que Gaius connaissait, soit qu'il ne lui était pas connu, étranger. La description faite à Jean de l'accueil que Gaius leur réserve de manière répétée ajoute encore à la satisfaction de l'ancien. Jean décrit ici des missionnaires qui se sont mis en route pour répondre à l'appel de Dieu, d'annoncer l'Évangile, de fortifier les églises. Il se démarque des faux prophètes en ce sens qu'ils ne monnayent pas leur prédication, mais reçoivent hospitalité et assistance matérielle de la part des églises et des croyants dans les lieux qu'ils visitent. L'encouragement qui est donné au verset 6, pour ne pas dire l'ordre, par Jean à Gaius est clair. C'est aux croyants locaux qu'il revient de prendre en charge les besoins de ces personnes. Il est hors de question qu'elles soient réduites à faire l'aumône auprès des non-croyants, ce serait indigne. Non pas qu'elles refuseraient le don de quelques croyants bien disposés, mais en tout cas, elles ne le solliciteront pas. C'est à la communauté de prendre en charge leurs moyens d'une manière digne de Dieu. J'aime beaucoup cette expression d'une manière digne de Dieu parce qu'elle parle de providence divine. Elle parle de confiance en Dieu. Ces personnes ont confiance non pas de tomber sur une pièce de 2 euros à chaque pas, mais pour que Dieu suscite en nous, qui bénéficions de leur ministère, le désir de pourvoir à leurs besoins en sorte que ceux qui annoncent l'Évangile puissent vivre de l'Évangile comme nous le voyons dans la première lettre aux Corinthiens, comme Paul le dit aux Corinthiens dans sa première épître. Le résultat en est, verset 8, que nous sommes en quelque sorte associés à leur travail. Une traduction littérale de ce verset serait « afin que nous soyons collaborateurs de la vérité ». Je me rends compte que je n'ai pas laissé les versets dans le texte, ce qui fait que ce n'est pas forcément facile de se référer à quoi je parle. La prochaine fois, j'essaierai de ne pas les enlever, parce qu'en plus, j'ai fait du copier-coller, j'ai même fait efforcer de les enlever, bêtement. Nous trouvons dans la Didache, qui est un petit manuel de pratique chrétienne, écrit vraiment dans les tout premiers siècles, quelques conseils permettant de différencier les véritables prédicateurs de l'Évangile de ceux qui en font commerce ou qui vivent au crochet des croyants. Et je lis cette partie qui concerne les missionnaires, les prédicateurs itinérants, à l'égard des apôtres, donc au sens large, les personnes envoyées en voyage, à l'égard des apôtres et des prophètes, agissez selon le précepte de l'Évangile de la façon suivante. Que tout apôtre venant chez vous soit reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu'un seul jour, ou en cas de besoin, un deuxième. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. Qu'à son départ, l'apôtre ne reçoive rien, sinon assez de pain pour gagner un gîte. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Alors, que Gaius ait eu ou non connaissance de ces prescriptions et à supposer qu'elles remontent à des temps aussi anciens, il n'en était pas moins confronté à ces questions. Et Jean lui reconnaît à Gaius encourage un ministère d'accueil des véritables prédicateurs itinérants de l'Évangile, un accueil qui n'est malheureusement pas partout à la hauteur des attentes de l'ancien, ainsi que nous allons le lire dans la deuxième partie de notre texte. Je lis donc à partir du verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet, en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage, et la vérité elle-même témoigne pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Ça se gâte. Hein, si la première partie de cette épître était presque une louange envers Gaius, il n'en est pas de même envers cette personne appelée Diotrephe. Le contraste est saisissant et même glaçant. Manifestement, Gaius connaît Diotrephe. Mais je vous avoue qu'au-delà de cette évidence, j'ai quand même du mal à comprendre la situation, le contexte, et les commentaires que j'ai pu lire à ce sujet ne m'ont pas vraiment éclairé. Jean mentionne ici avoir écrit quelques mots, dont nous ne savons rien, à l'Église, une Église dont nous ne savons rien non plus. Cet écrit ne nous est pas parvenu, et il ne s'agit pas des épîtres précédentes. Plein de questions. Gaius et Diotrephe sont-ils de la même église ou membres d'une église voisine? Ou encore Diotrephe, on peut imaginer plein de situations, serait-il le responsable d'une église mère, mère d'une église fille dont Gaius serait le responsable? On peut supputer plein de choses. Eliot nous a emmené dans des suppositions ce matin, on peut y aller. Mais en tout cas, on n'a pas tellement d'éléments contextuels. Mon impression toute personnelle, c'est quand même que Gaius sait très bien de quoi parle l'ancien en dénonçant les actes que Diotrephe commet. Alors, essayons de passer outre ce questionnement contextuel pour nous attarder sur ce qui est important pour nous de comprendre et de retenir. Il nous est dit que Diotrephe aime à être le premier. Le premier parmi eux, c'est-à-dire parmi les membres, très probablement, de la fameuse église à laquelle l'ancien a écrit. C'est quelques mots qu'il a écrits. Et en cela, déjà, bien sûr, il va à l'encontre de l'enseignement de Jésus de renoncer à dominer sur ses frères, mais plutôt de se faire le serviteur de tous. Mais comment se manifeste concrètement ce désir de grandeur chez Diotrephe? Très probablement que, pour être exhaustif, il nous faudrait un éclairage psychologique. Mais nous pouvons esquisser un profil. Nous avons probablement là un leader qui bénéficie d'une aura et qui la cultive, afin de se constituer un noyau de fidèles qui ne discuteront pas son autorité. Nous avons très probablement là une personne capable de répondre présent sur tous les fronts, afin d'apparaître sans égal aux yeux de tous, d'être le point central, incontournable de la communauté, et que rien n'échappe à son contrôle. Nous avons très probablement là une personne qui a réponse à tout, qui a une solution pour chaque problème, que rien ne prend jamais au dépourvu. Ce qui vous tracasse, il y a déjà pensé avant vous. Son assurance suffit, la plupart du temps, pour vous rassurer et pour vous convaincre. Elle lui permet même d'y aller au culot, et son expérience lui a montré que ça fonctionne. Chacun trouvant auprès de lui la réponse à son problème, personne ne se rend compte que ses propos sont souvent contradictoires. Et enfin, vous avez une personne qui n'est jamais fatiguée. Vous avez même l'impression qu'elle ne dort jamais. Quand vous êtes là, L.A.S., lassitude, incapable de faire un pas de plus, ne vous inquiétez pas, dormez sur vos deux oreilles, lui est toujours là, il prend les choses en main. Pas de risque que quoi que ce soit de fâcheux profite d'un moment de faiblesse de votre part, lui veille. À l'occasion, il ne se privera pas de vous faire comprendre que vous êtes tellement faible. Et il saisira les moindres manquements, il se saisira des moindres manquements de ceux qui se hasarderaient à le contredire. Progressivement, par sa présence, par sa connaissance, par sa puissance, cette personne va incarner aux yeux de tous le leader idéal. Tout ce que nous révérons en Dieu, son omniprésence, son omniscience, son omnipotence, s'incarne dans ce leader tout-puissant. La dimension spirituelle de la communauté ne sera plus que l'objet et le prétexte à l'exercice de son pouvoir. Comble de la séduction et de l'usurpation de pouvoir, nous serions même enclins à lui abandonner des choses que nous aurions du mal à abandonner à Dieu. Et enfin, très logiquement, comme Dieu ne peut recevoir des hommes aucun reproche, eh bien lui non plus. Serait-ce de Jean, Pierre, Paul ou Jacques, je parle des apôtres, ce monsieur balaye d'un revers de main toute remarque sur ses agissements. D'où qu'elles viennent, il fait barrage, comme nous le voyons ici, Diotrephe ne nous reçoit pas, et de manière à ce que son imposture ne soit pas mise en lumière. Et il est même très probable qu'il reçoive en cela l'appui de membres aveuglés qu'il admire et sont toujours prêts à le défendre. L'ancien rapporte ici, pour Gaius, quelques éléments factuels. Diotrephe, premier élément, Diotrephe se répand en paroles malveillantes envers nous. Qui est-ce nous ? C'est une forme que nous avons déjà rencontrée dans la première épître. Jean parle en tant qu'apôtre. Il fait allusion à son autorité d'apôtre. En parlant mal de Jean, Jean parle en mal des apôtres, ce qui déjà devrait normalement alerter les auditeurs. Deuxième élément factuel que Jean reproche à Diotrephe, le refus d'accueillir les frères. Et donc, dans le contexte, ces frères, qu'ils soient étrangers, c'est-à-dire que Jean, que Gaius connaisse ou non, prédicateurs itinérants, missionnaires, très probablement, ils refusent de les accueillir pour que sa domination ne soit pas dénoncée. Et troisième élément factuel, l'intimidation, en empêchant et en chassant de l'Église ceux qui se hasarderaient à les accueillir. Et là, on commence à mieux comprendre les raisons pour lesquelles Jean presse Gaius d'accueillir ses missionnaires. C'est à cause du mauvais témoignage, du mauvais accueil que Diotrephe leur réserve. Qu'il soit Gaius dans la même église que Diotrephe ou qu'il soit géographiquement très proche, Jean demande en quelque sorte à Gaius de combler, au moins temporairement, le vide laissé sur ce plan par Diotrephe. Le rappel par écrit à leurs obligations adressées aux responsables d'Église n'ayant rien donné, Diotrephe ayant fait obstruction, comme il nous est dit ici, l'ancien en vient à envisager, s'il vient, la décision n'est pas encore prise, de dénoncer publiquement les agissements de Diotrephe. Je vous ai dit au début que Jean allait traiter de questions délicates. Nous y sommes, avec la description de ce tableau affligeant. Mais peut-être n'avons-nous pas encore abordé le point le plus délicat, ou ce qui touche Gaius peut-être plus personnellement. Et il est au verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Mon enfant Gaius, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. On peut bien sûr le prendre comme un avertissement général. Mais on est dans les suppositions, et le théologien John Stott en fait une, et en suggérant l'hypothèse que Jean craigne que Gaius ne soit influencé par Diotrephe. Il est tellement plus flamboyant, ce Diotrephe, que ce vieillard d'un autre temps, qu'est Jean. Sa réussite, sa prospérité est tellement plus éclatante que celle de tous ces chrétiens qui se contentent de leur état. Son discours est tellement plus convaincant que celui de ces missionnaires sans éloquence. Qui que soit Gaius, que ses sentiments soient fermes ou troublés à l'égard de Dieu trèfle, l'avertissement est là pour nous et pour tous les chrétiens, ne pas imiter le mal, mais le bien, s'exercer à discerner le bien. Car enfin, quels sont les fruits du ministère de Dieu trèfle ? La glorification d'un homme, la médisance, l'intrigue, la calomnie, la flatterie, la constitution d'un aéropage de fidèles dévolus à lui assurer son pouvoir, l'emprise sur les croyants et leur isolement des missionnaires de passage de leur réseau d'église. Comme pour les faux prophètes, c'est à leurs fruits que nous les reconnaissons. Le discernement est un préalable indispensable au choix de décider quel modèle imiter. Gaius doit choisir soigneusement son modèle. En l'occurrence, Jean s'attache à démontrer que l'exemple de Dieu trèfle ne convient pas. Et ce verset 11 est vraiment un verset charnière. Parce que d'un côté, le mal et de l'autre, le bien. Après le mauvais modèle, Dieu trèfle, voici le bon, Démétrius. Démétrius, dont il nous est dit dans la fin de la suite de ce passage, que nous sommes là en compagnie d'un serviteur de Dieu, dont le témoignage est exemplaire. Par l'introduction de ce personnage, que nous ne connaissons pas plus que Gaius, il semble que l'ancien recommande à Gaius de se rapprocher de lui, Démétrius, plutôt que de Dieu trèfle. Bien probable que Gaius ne le connaisse pas, lui non plus, mais Jean lui désigne quel est le modèle, qui est le bon modèle à suivre. Au verset 12, l'ancien monte d'un cran dans son autorité apostolique par rapport au temps général de la lettre. Tu sais que notre témoignage est vrai. Et nous retrouvons ici la même forme qu'au verset 9, le « nous » se rapportant à son appartenance au corps des apôtres. En quelque sorte, il est en train de lui dire, si tu es tiraillé, si tu as du mal à faire la part des choses, crois-moi au moins parce que c'est moi, l'ancien, qui te le dis. Je pense ici à une parole lue dans la deuxième épître, il y a 2 semaines. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Quelle tristesse, hein, tout de même, ce serait si, après tout ce parcours, ces progrès que Jean a décrits en tête de lettre, cette réussite en tout, Gaius se fourvoyait maintenant dans l'imitation d'un modèle aussi désastreux que celui de Dieu trèfle. Nous allons plus loin dans notre lecture et terminons cette épître par les versets 13 et 14. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bien très bientôt et que nous en parlerons et que nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi, les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Dans cette lecture de la lettre hypothétique, hein, je vous l'accorde, d'une situation de tiraillement intérieur dans la tête de Gaius, c'est une hypothèse. La mention au verset 13 des nombreuses choses que Jean aurait encore à lui écrire à Gaius prend tout son sens. Là, par cette lettre, il vient de pallier au plus pressé, s'assurer d'une part d'un accueil digne de Dieu, aux missionnaires de passage, et deuxièmement de donner à Gaius un modèle à suivre, une sorte de mentor en la personne de Démétrius. Mais l'ancien a conscience qu'il va falloir approfondir tout ça et rentrer un peu plus dans les détails des paroles et des faits. Et donc, avec l'espoir estimé au verset 14 par Jean de voir Gaius très bientôt, sans doute avons-nous ici une seconde allusion au projet que Jean forme de venir en personne traiter le problème posé par le comportement déplorable de Diotrephe. Dans un tel contexte, la bénédiction de paix que Jean adresse en conclusion à Gaius prend une acuité particulière. De même, le rappel que Gaius est entouré d'amis dans l'église de Jean, tout comme dans sa propre église. En principe, les amis sont des personnes qui nous veulent du bien. Terminons donc ici notre parcours avec notre parcours des épîtres de Jean. Nous terminons ici avec le constat que même du temps, même du vivant des apôtres, il était difficile pour les croyants de discerner entre le bien et le mal. Les apôtres eux-mêmes pouvaient rencontrer ça et là l'opposition, des faux prophètes, des faux docteurs, des imposteurs, des usurpateurs de pouvoir. Mais de nos jours, comme du leur, la parole de Dieu est vérité. Aimer et s'attacher à la vérité, une vérité dans l'amour, nous a dit l'Ancien, marcher dans la vérité, demeurer dans l'enseignement de Christ. Et pour terminer, je vais juste rappeler les trois critères que nous avons développés dans la première épître, trois critères qui nous permettent de savoir où nous en sommes dans notre vie chrétienne. L'obéissance, critère exprimé en ces mots, garder les commandements de Christ. On reconnaît les disciples du Christ à leur obéissance à leur maître. Deuxième critère, l'amour. Celui qui aime son frère est dans la lumière et donc dans la vérité. Celui qui est son frère est dans les ténèbres et donc dans l'illusion, sinon le mensonge. La foi, et troisième critère, la foi et la persévérance dans une saine doctrine. Les croyants authentiques veillent à ne pas dévier de l'enseignement de Christ et de ses apôtres. Je suis content d'avoir fait ce parcours des épîtres de Jean avec vous.